Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En cette fin d'année 2019, l'on pourrait se dire un peu vite que ce n'est pas Noël pour tout le monde, pour Donald Trump et les Américains, avec la procédure en destitution du président de la plus grande puissance économique et militaire au monde. Pour, je cite, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès, pour Emmanuel Macron et les Français, et une réforme des retraites qui provoque des manifestations importantes et pose bien des questions, notamment en termes de niveau des pensions de retraite à long terme, de soutien à la politique familiale ou aux plus modestes des retraités. Un Noël en berne donc, c'était sans compter avec l'esprit de contradiction de nos invités et leur espérance. Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, en ce vendredi, donc, pour cette émission d'actualité, ce mois-ci, trois invités, non pas trois chroniqueurs. Daniel Cabanis, toujours professeur émérite d'histoire du droit à l'Université Toulousain-Capitole et chroniqueuse à cette même antenne. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre religieux de la communauté des Béatitudes et enseignant en éthique à l'Institut catholique de Toulouse, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Philippe Soal, professeur de philosophie à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à chacun.
Voilà, vous êtes donc un des nouveaux invités. On va donc commencer par ce sujet donc international. C'est comme toujours comme ça qu'on ouvre l'émission avec cette procédure en destitution donc du président Trump. Donc l'acte d'accusation a été donc approuvé vendredi de la semaine dernière, vendredi donc 13 décembre. Le président américain, je l'ai dit, donc est accusé d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès. C'est une procédure qui avait déjà commencé donc en septembre dernier. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump est, on va dire, inquiété ou sur la sellette, mais là les choses se précisent. Il y avait eu le fameux Russian Gate, on y reviendra. Voilà, l'Amérique est assez partagée. Il y a, on va dire, les pour et les contre, mais les sondages ne chutent pas. Daniel Cabanis, vous qui êtes la chroniqueuse politique et internationale parfois à cette antenne, vous commencez et puis évidemment viendront les questions au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, la première chose, c'est que on a tendance à dire c'est une affaire internationale. Non, c'est une affaire interne aux États-Unis qui peut avoir, enfin qui aura de toute façon des conséquences internationales. Mais c'est d'abord un problème interne, car cette procédure qui est très ancienne, qui n'est mise en marche réellement que pour la troisième fois aux États-Unis, est un acte très, très solennel, mais très particulier, dont on ne connaît pas l'équivalent dans les autres démocraties, disons, de type occidental, parce que le mot démocratie peut recouvrir n'importe quoi, y compris son contraire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'opinion joue un rôle dans le déclenchement, parce que aucune des deux chambres ne peut prendre le risque de lancer la procédure si elle n'est pas sûre d'avoir au moins un certain suivi dans l'opinion. Or, mercredi dernier...
Donc là, c'est la Chambre des représentants.
La Chambre des représentants, oui. Mercredi dernier, il y a un léger renversement puisque 51% des Américains, d'après un sondage Gallup, décrètent ne pas souhaiter que la procédure aboutisse. Alors, la Chambre des représentants est majoritairement démocrate, donc il y a toutes les chances que le vote soit acquis en faveur de l'impeachment.
Alors mais, on dit que ce n'est pas forcément le cas donc, du Congrès, qui lui est républicain.
Mais le Sénat, lui, est massivement républicain. Et je ne sais ce qui pourrait provoquer un retournement des républicains.
Alors juste quand on dit destitution, Daniel, ça veut dire que si d'aventure ça aboutissait, le président n'est plus président. Donc il y a eu deux précédents. C'était Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. Andrew Johnson, lui, on lui avait demandé de partir ou...
Alors là, ça s'est terminé par une solution un petit peu entre deux. Il est parti, mais sans qu'il soit obligé de le faire tout de suite. Dans le cas de Bill Clinton, ça n'a pas abouti.
Ça, je m'en souvenais, oui.
Mais... Et dans le cas de
Nixon,
Clinton, même si Nixon. La procédure va jusqu'au bout, et si par hypothèse invraisemblable, le Sénat votait dans ce sens, dans ce sens-là, et ce serait pour bon, un peu plus tard. Après, il y a une véritable instruction. C'est pas prononcé tout de suite. Il faut avoir une opération politique dont les résultats sont très aléatoires. C'est pour ça que maintenant, certains des démocrates se demandent s'ils sont pas montés comme en 14 sur le front de bataille et prenant un risque que le président sorte renforcé.
Alors c'est ce qu'on dit donc à propos des prochaines élections. Je précise juste qu'une des principales accusations donc qui est portée contre Donald Trump, c'est donc de s'être entendu avec son homologue ukrainien Volodymyr, je vais y arriver, Zelensky, et lors d'un coup de fil, lui demandant de faire des recherches sur son futur opposant donc pour les prochaines élections américaines, Joe Biden, essayer de trouver des choses sur lui, pour dire les choses très simplement. Tanguy Marie Pouliquen, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ben, ça m'inspire que cette procédure, elle est enclenchée à un an des élections. Difficile de ne pas mettre en perspective les deux événements, une campagne électorale qui va commencer vraiment en février, donc il faut que la procédure d'impeachment pour ou contre, elle soit finalisée en janvier. Moi, je pense que derrière... Bon, c'est sûr, on n'est pas étonné. Monsieur Trump fait des petites bêtises. Il ment de temps en temps, il ment souvent, etc. Derrière, c'est les valeurs qui doivent gouverner l'Amérique. D'un côté, une volonté de réguler les inégalités sociales. Sous la présidence Trump, certes, le chômage a baissé, la richesse a augmenté, l'économie va bien. Même s'il y a des grandes fragilités en termes de déficit public et de balance commerciale hyper négative, donc il n'y a pas que des éléments positifs au plan économique, mais il y a une Amérique pauvre qui souffre. Donc d'un côté, c'est le pari des Républicains et du Tea Party. Trump vient de l'aile droite du Parti Républicain, de parier avant tout sur le rêve américain, c'est-à-dire... la liberté d'initiative avant tout, et que chacun se bouge et se débrouille. Et en contrepoint, chez les démocrates, c'est la question de l'égalité sociale, et en fonction de la montée de l'électorat, du jeune électorat, vous voyez, l'électorat...
Mais quel lien vous faites avec la procédure de destitution? Parce que là, vous faites une analyse politique de la campagne, future campagne présidentielle.
Eh ben, je dis qu'il y a un déplacement je pense que la procédure est exagérée. Vraiment exagéré, et que derrière, on est rentré en campagne. D'ailleurs, c'est l'argument des Républicains, en disant on veut porter à mal le vote des Américains du vote de 2016 pour porter à mal le vote des Américains en 2020. Donc, on porte en faux la crédibilité du vote américain, et donc la procédure est politique et non pas... que juridique.
Mais en même temps, vous dites ça, mais vous connaissez le dossier de loin, comme nous tous.
Je connais le dossier en termes de... Il y a des éléments de collusion entre une politique extérieure américaine et puis, voilà. Moi, je trouve que c'est trop. D'enclencher un impeachment uniquement là-dessus...
On imagine qu'il n'y a peut-être pas que ça. En tout cas, on dit que Nancy Pelosi, donc qui est la présidente de la Chambre des représentants, est quand même peut-être une certaine politicienne, comme on le dit, pour disqualifier les politiques, mais qu'en général, ils savent quand il faut déclencher les choses.
L'argument d'autorité ne marche pas du tout en la matière. L'impeachment, l'argument d'autorité. Il faut voir les faits. Le seul fait, pour l'instant, qui a été soulevé dans l'enquête qu'a fait la Chambre des représentants, c'est cette collusion entre une aide attribuée à l'Ukraine et une demande d'enclenchement de procédure interne pour accuser le fils de Biden. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est que ça? C'est déjà pas mal. Mais est-ce que ça va... Il pourrait y avoir un peu comme ça à terminer avec Clinton. Pas une procédure d'impeachment, mais simplement un rappel à l'ordre. Voilà. Je pense qu'on a déplacé le rappel à l'ordre à une procédure... qui a des visées peut-être politiques, internes.
Philippe Soal, et puis après je vous relancerai.
Oui, alors j'apprécie votre attitude à tous les deux, parce qu'il me semble que nous sommes là pour comprendre, nous ne sommes pas un tribunal du tribunal, nous ne sommes pas américains, nous, mille choses nous échappent. Personnellement, je ne suis pas à l'actualité tous les jours avec ferveur, j'essaie de comprendre les grands enjeux. Et en tant que philosophe, ce que j'essaie, c'est de comprendre notre monde, qui me paraît assez complexe. Je noterai deux points. D'abord, le fait que la politique a toujours été un théâtre. Et de ce point de vue-là, c'est le génie des Grecs d'avoir théâtralisé la vie politique. Et à savoir d'avoir inventé ce qui s'appelait Athènes la Pnyx, donc une assemblée. Des citoyens viennent, à l'époque c'est une démocratie directe, donc ils viennent, ils s'assemblent, ils prennent la parole. Les armes sont interdites, la calomnie est interdite, et on est là pour un débat raisonnable. Voilà. Donc là, malgré tout, il me semble qu'il y a quelque chose qui est respecté jusque dans le fait qu'on suit la légalité en faisant une demande, en portant une accusation contre un président. Donc il y a un premier point qui est cette théâtralisation inévitable et saine en fait, excellente, parce que plutôt que d'en venir au coup ou à l'inimitié, au meurtre mutuel, le génie de la politique, c'est le génie de mettre en scène les différents et de permettre à chacun de prendre la parole dans un débat qui doit rester au moins raisonnable. Voilà. Donc là, il y a une première part qui est une part de théâtre. Alors ça veut dire aussi pour les États-Unis qu'il y a une part de théâtre interne qui nous échappe en partie aussi. Parce qu'il est certain, vous l'avez souligné tous les deux, que les Américains sont entrés en campagne. Donc il y a des partis politiques qui s'affrontent, les enjeux sont immenses. Et la question est de savoir qui gagnera la prochaine élection présidentielle. Donc il y a un premier, il y a comme un train qui peut en cacher un autre. Il y a un premier point visible, c'est effectivement, est-ce que M. Trump a commis une faute? Quelle faute a-t-il commise? Cela, donc, c'est à la Cour de juger, ce n'est pas à nous. Je fais confiance dans les institutions américaines. Enfin, j'imagine qu'elles sont compétentes en la matière. Donc, il y a un premier point, voilà. Et le deuxième point, c'est cet enjeu de la réélection, une certaine amertume, si ce n'est un ressentiment à l'égard de l'élection de M. Trump. Voilà. Donc tout ça est assez compliqué. Il y a ensuite un deuxième point qui est le fait que nous avons aussi un point de vue déformé par nos médias. Pour essayer d'en parler avec quelques amis qui ont vécu aux États-Unis ou qui y vivent, ce qui est assez frappant, c'est que les médias français notamment ont souvent un point de vue typiquement franco-français et qui manque, je crois, sérieusement de maturité ou d'efforts d'objectivité.
Qu'est-ce que voilà. Ça veut dire sur cette affaire-là? Qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que vous en dites vos américains?
Ça veut dire que
américains.
Je n'ai aucune sympathie personnelle pour M. Trump, je ne le connais pas de toute façon. Je vois que c'est pas un bon garçon, c'est pas un homme bien élevé, c'est un homme assez grossier, enfin voilà, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On peut aussi être très très étonné de voir que cet homme-là soit arrivé aussi haut, même si j'ai bien compris aussi par des voies qui ne sont pas tout à fait les meilleures, en tant que chef d'entreprise, simplement déjà. Mais il me semble aussi que ça fait partie du personnage. Il a même écrit un livre « Trump by Trump », Trump par Trump, dans lequel il explique sa méthode. Et il me semble aussi qu'il y a ça fait partie du théâtre dont je parlais, il y a un effet oratoire chez lui, c'est-à-dire une exagération. Il y a une violence verbale au moins, alors qu'il faut essayer de comprendre. Alors moi, elle me paraît le plus souvent contre-productive, mais en tout cas, c'est la méthode de l'homme. Donc il est un mauvais garçon, pour parler un peu vulgairement, et il en rajoute aussi dans ce caractère-là, dans l'excès verbal, une certaine violence verbale. Et on l'a vu aussi avec la Corée du Nord et tout, ça ne donne pas nécessairement les meilleurs résultats.
Daniel Cabanis, il y avait eu donc des précédents, hein, le fameux Russian Gate, où là il y avait des accusations, on va dire, de collusion avec la Russie lors de la dernière campagne présidentielle. Il y avait eu une enquête donc du procureur spécial Robert Mueller, tout le monde en a entendu parler, au moins même de loin. Et je relisais dans le journal La Croix donc ses déclarations lors de sa présentation au Congrès de les conclusions de son rapport. Les conclusions indiquent que le président n'a pas été disculpé des actes qu'il était accusé d'avoir commis. C'est notre décision et ça le reste. Et ensuite, l'interférence du gouvernement russe dans notre élection compte parmi les plus sérieuses, parmi les délits qu'il a vus dans toute sa carrière. Ça suffit pas donc pour... qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Tanguy-Marie Pouliquen sur ce sujet? Ça peut pas suffire pour... on est loin, certes, mais quel est votre point de vue?
Je vais faire une réponse de Normand. D'un certain point de vue, ce sont deux épisodes dont un n'a abouti à rien du tout, quelque grave qu'il ait pu être, parce que la collusion, elle est établie, les détails ne le sont pas. Les modalités ne le sont pas complètement, mais le fait de la collusion...
Donc il n'y a pas de collusion établie. S'il n'y a pas de lien de causalité, il n'y a pas de collusion établie. Il y a des faits de part et d'autre, mais il n'y a pas de lien de causalité, donc il n'y a pas de chef d'accusation. Non, mais c'est une question de vocabulaire. Hein,
oui, c'est bon, une question de vocabulaire.
Mais allez-y, Daniel.
Je crois quand même qu'il a, des comportements qui sont en tout cas limites, qu'il n'hésite pas à jouer sur ses relations extérieures en utilisant des émissaires, comme il l'a fait dans sa vie des affaires, où il jouait toujours sur deux terrains à la fois, y compris pour réaliser les pires coquineries. Alors, après, c'est un précédent, mais effectivement, ça n'a pas abouti. Et l'autorité de la chose jugée, même quand c'est l'autorité de la chose pas jugée, fait qu'on ne peut pas trop y revenir. Il ne reste pas moins que c'est un élément d'environnement du personnage qui est totalement défavorable et qui consolide en tout cas l'impression qu'il ne respecte pas la règle du jeu, même si formellement il a réussi à s'en tirer.
Allez, on va le citer pour finir avant de faire une première pause. La gauche radicale, les démocrates incapables sont devenus le parti de la haine. Ils sont si mauvais pour notre pays, jugé Donald Trump. C'est donc une des déclarations qu'il a faites à la faveur de cette procédure donc d'impeachment, comme on dit en anglais. On fait une première pause et puis on vous retrouve. On va parler de la réforme des retraites.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin, l'émission donc actualité du mois de Vivante Église autour du plateau. Daniel Cabanis, professeur émérite d'histoire du droit à l'université Toulousain Capitole, Tanguy-Marie Pouliquin, prêtre religieux de la communauté des Béatitudes et enseignant en éthique à l'Institut catholique de Toulouse, et Philippe Soile, qui est professeur de philosophie dans ce même Institut catholique de Toulouse. La réforme des retraites, alors on en a parlé cette antenne, hein, on essaie de faire notre part, on avait même Corinne Catherine Vignon, donc la porte-parole du gouvernement, au téléphone, je crois, il y a 10 jours, pour nous expliquer cette réforme. Elle était très contente, d'ailleurs, je le dis en passant, parce que là, elle avait le temps de développer sa pensée, comme quoi il y a quand même 2-3 avantages à notre antenne. Je dis ça en souriant. Alors, la réforme des retraites, que dire ? Beaucoup de choses, peut-être le calendrier pour commencer. Cette réforme donc, a été précisée récemment par le Premier ministre. Le flou aurait été un petit peu dissipé. Elle doit être présentée en Conseil des ministres le 22 janvier. Les discussions parlementaires doivent débuter en fin février et aboutir à une loi d'ici l'été. Réforme donc systémique, manifestation importante. Voilà, clivage de l'opinion publique en partie sur ce sujet. Retraite à points, on va pas peut-être réexpliquer ce que c'est que cette retraite à points. Une manière de vous lancer, ça serait de vous demander... Ah oui, la CFDT, lors des dernières déclarations donc du Premier ministre, a dit, son secrétaire général a dit, la ligne rouge est franchie, laissant entendre que cette réforme sera appliquée donc aux personnes nées au-delà de 1975. Et que donc elle est préjudiciable pour tous ceux qui avaient imaginé avoir un autre système des retraites avant de se lancer dans la retraite. Allez, on va le faire dans l'autre ordre. Honneur à ces messieurs. Tanguy Marie Poulikens, qu'est-ce que ça vous inspire ? Juste ou injuste, cette réforme ?
Ben, sur le fond, elle est nécessaire. Elle est nécessaire à la fois budgétairement... et elle est nécessaire socialement. Donc c'est à la fois une réforme qualitative et à la fois une réforme budgétaire. Il faut que tout le monde se rappelle que les ressources et les finances publiques, c'est des comptes publics et c'est pas illimité. Donc il y a un principe de réalité qu'il faut prendre en compte. Donc dans la volonté du gouvernement de un sou, un euro rentré égale un euro sorti par des cotisations, il y a un principe de réalité qu'il faut entendre.
Alors budgétaire, ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire que le régime est déficitaire et qu'il faut le combler ?
Parce que
les syndicats disent pas tout ça.
On a des finances publiques qui sont largement déficitaires. On a une ligne d'horizon, des critères de Maastricht qui nous imposent des limites à nos déficits, 60%, Eh ben, il faut respecter. Ça en va dans des effets secondaires de crédibilité de la monnaie européenne, crédibilité des économies européennes, et après de la manière de négocier au plan international, parce qu'on est une Europe puissance. Donc il faut pas simplement regarder le seul focus de simplement des intérêts immédiats. Ils sont beaucoup plus larges. Ils impactent le bien commun et la France tout entière dans sa position européenne.
Donc budgétaire, et le deuxième point c'était ?
Ah ben le budgétaire, l'autre c'est qualitatif, c'est-à-dire effectivement en éliminant les régimes spéciaux, on permet à une certaine égalité de s'opérer au cœur même d'inégalités qui sont fortes. J'en souleverai une femme et un homme à la retraite. Un homme en moyenne gagne combien ? 1750 euros par mois. Et une femme, combien ? 1060 euros par mois, en moyenne. Voilà, donc il y a des questions d'inégalité qui doivent être nivelées le plus fortement.
Mais là, les régimes spéciaux ou la retraite à points, quelle différence ça fait pour cette inégalité homme-femme ?
Ça dépendra de la question, notamment de la prise en compte... Alors, c'est des questions cette fois-ci techniques. Par exemple, aujourd'hui...
Parce que les femmes s'arrêtent plus, c'est souvent ce qu'on dit. Les femmes s'arrêtent plus.
Oui, mais il y a une prise en compte. Il y a un taux majoré pour les femmes quand elles ont des enfants par rapport à leur retraite de l'ordre de 10, au moins 10%. Donc, il y a des leviers possibles en termes de majoration pour disqualifier les inégalités. Et après, ce qui est intéressant au plan, cette fois-ci, politique... c'est qu'on a une ligne politique qui s'affronte de manière assez nette. C'est entre un bloc populiste, les salariés des 25% les plus faibles de la société française qui ont des problèmes avec leur trésorerie personnelle, et en face, un taux important de personnes qui sont en faveur de la réforme, mais qui appartiennent à des classes élitistes. Donc on a bloc minoritaire contre bloc élitiste. C'est l'analyse de Jérôme Sainte-Marie qui fait là-dessus.
Jérôme Sainte-Marie, qui est-ce juste ? Jérôme Sampaly.
C'est un sociologue politique. Voilà.
D'accord.
Et sinon,
parce que la Confédération des cadres a quand même rejoint cette manifestation. Donc, preuve que le clivage n'est peut-être pas aussi net que ce que vous dites.
Il n'est pas net, mais il est dominant.
CFE-CGC a quand même appelé à manifester.
Oui, mais après, qu'est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on défend tout? Est-ce qu'on défend peu? Et le dernier élément, c'est l'élément soulevé par un élément de l'économiste Cohen qui disait, moi je suis assez d'accord avec lui, que la réforme des retraites, elle doit être protectrice. Et elle n'est pas ressentie comme protectrice. Voilà. Elle est ressentie comme seulement économique. Alors que les retraites doivent favoriser l'assainissement de la stabilité des retraités et donc de nos aînés. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas ressenti comme cela aujourd'hui.
Daniel Cabanis, quel est votre sentiment? On reviendra un petit peu sur la situation des femmes où, par exemple, il y a des questions qui sont posées par les associations familiales. Voilà, qui trouve que le compte n'y est pas, c'est en tout cas ce que disent entre autres les AFC. Vous, qu'est-ce que vous diriez, juste ou injuste cette réforme ?
Sur le plan du principe, je pense qu'elle est juste. Il est même regrettable qu'on ait attendu si longtemps pour s'attaquer globalement au problème des retraites. Un certain nombre de régimes particuliers ne se justifient plus. Ils ont une légitimité à une certaine époque, ils n'ont plus de sens. Maintenant, rien n'est légitime. Il n'en reste pas moins qu'une réforme utile et susceptible d'être acceptée doit clairement gommer des inégalités insupportables. Alors, ça peut être gommer les inégalités salariales les pires, parce que n'oublions pas que dans notre pays, plus de la moitié des salariés, hommes et femmes confondus, commencent à peine avec le SMIC et finissent avec 200 euros de plus. Donc c'est absolument désespérant. Et puis ça signifie, même s'il y a des prises en charge, on le sait, il y a des aides, mais qu'ils vont passer toute leur vie à compter leurs sous à partir du 20 du mois. Donc, et que ça va être encore pire, pensent-ils, et ils n'ont pas forcément tort, au moment de la retraite.
C'est d'ailleurs ce que dit la CFDT, hein, c'est qu'ils disent que ce qui est prévu, c'est 80% du SMIC pour les personnes qui avaient le SMIC, et 80% du SMIC, c'est le seuil de pauvreté, c'est 1000 euros. Donc ça ne fait pas une grande différence aussi entre ceux qui travaillent ou qui vivent
Voilà. Ouais. Enfin, il y a là un gros débat sur la façon dont on considère le travail. Et je l'ai dit souvent, la France est un des pays où encore aujourd'hui, le travail est souvent considéré comme une malédiction. Et ceux qui sont obligés de travailler s'estiment les maudits de la terre. Et imagine que tous les autres, à part eux, ont une situation très privilégiée. On est les champions tous azimuts de la jalousie entre catégories.
Philippe Soal, votre réaction, juste, injuste, ou vous pouvez répondre à une autre question si c'est un autre point qui vous interroge.
Et j'aimerais rebondir à propos du travail, ce que disait madame. Beaucoup de professeurs de philosophie enseignent que le mot travail vient du latin tripalium, et le tripalium c'était un instrument de torture. Je crois que le pays se porterait mieux si on cessait de dire ce genre de sottises, parce que le travail, on peut le considérer dans une tradition grecque, et sans doute que c'est une malédiction, enfin sinon une malédiction, du moins une nécessité et quelque chose de difficile pour l'homme, mais dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne, c'est une bénédiction. Et donc nous sommes héritiers de cette tradition-là, normalement, dans une situation chrétienne, ou en tout cas de racines chrétiennes au moins. Et donc il faudrait repenser la notion de travail. Alors après, ceci dit, il y a beaucoup d'hypocrisie. Alors quant à
Donc la vie ne commence pas avec les retraites, c'est ce que vous êtes en train de nous dire?
Oui, ben je suis...
Continue.
Oui, puis la retraite, même il y a des métiers dans lesquels, par bonheur, on peut ne pas prendre de retraite. Nous en faisons partie, nous avons cette chance-là, de faire des métiers passionnants sans retraite. Au sens... Enfin, il y a une retraite, évidemment, juridiquement parlant. Et encore, certains... peuvent continuer. Alors, pour la réforme elle-même, je voudrais plutôt m'attarder sur des questions de méthode. Il me semble que le gouvernement a été pour le moins maladroit dans la manière de conduire les choses. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu beaucoup de concertations de la part de la personne du gouvernement qui était chargée de le faire. Mais il y a eu sans doute aussi beaucoup de ruses, beaucoup de peurs de la part du gouvernement. Et on l'a vu notamment ces derniers mois. Et le gouvernement, au lieu de calmer le jeu et a plutôt entretenu les peurs. Vous avez vu les couacs, parfois nous ne savions même pas ce que pensait le chef de l'État lui-même de cette réforme. Donc là, tout ça était anxiogène et je pense que cela pouvait être évité. De leur côté, les syndicats ont joué leur jeu et c'est un jeu qui me paraît aussi terriblement français, parce que il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde dans lesquels on fait la grève avant de savoir contre quoi on fait la grève. Et donc la grève du 5 décembre...
C'était pas le cas de tous les syndicats. La CFDT, la CFTC n'avait pas manifesté, manifesté le 5 décembre.
Oui, d'autant plus que vous avez raison, c'est que la CFDT, en fait, a depuis longtemps porté le projet, justement, de la retraite à points, précisément. C'était son... Alors, pour la CFDT, la ligne rouge, c'est l'âge de la retraite. Et ce syndicat ne veut pas que cette âge soit changée, mais veut qu'il demeure à l'âge de 62 ans. Voilà, donc, il me semble qu'il y a de part et d'autre des arrière-pensées, des peurs, le théâtre aussi dont je parlais tout à l'heure. Sur le fond, de la, j'ai quand même une petite réserve sur le fond même de la retraite. C'est qu'il me semble qu'elle va peut-être dans le sens d'une plus grande atomisation de la société humaine. C'est-à-dire que tout devient de plus en plus individualisé au sens où l'individu se retrouve seul finalement. Alors on peut y voir de la justice parce que pour un euro cotisé, il y aura une certaine proportion de pension de retraite. Mais en même temps, c'est par là aussi peut-être qu'il y a moins de solidarité sociale, de solidarité intergénérationnelle, et on laisse davantage l'individu assumer seul la charge de son avenir.
Pourtant, voilà. Le but est de sauver justement un système par répartition et d'éviter la capitalisation.
La capitalisation et on confirme la répartition actuellement.
Alors, sur les sujets, donc, je vais citer deux, trois sujets qui fâchent, qui je trouve sont quand même intéressants pour une antenne comme la nôtre. Daniel Cabanis donc, soulignait la question des petits salaires, puisque ceux qui ont des retraites conséquentes, c'est souvent parce qu'aussi ils ont des bonnes augmentations salariales au fur et à mesure de leur vie professionnelle. Les associations familiales ont plusieurs fois alerté. Donc aujourd'hui, on va passer à 5% de majoration par enfant. Au troisième enfant, il y aura un bonus de 2%. Mais les associations familiales, et on en avait eu par téléphone, enfin dans différentes émissions, disaient la question, c'est aussi le remplacement des générations. Donc le soutien à la politique familiale aurait dû faire partie aussi quelque part un peu de la réforme. Une question de justice sociale avec les... Donc, c'est ceux qui arrivent à la retraite avec un SMIC, qui vont juste toucher 80% du SMIC. Est-ce que ça donne l'impression à certains d'être aussi à une réforme comptable? Alors certes, les comptes sont importants, mais que la justice n'est pas tout à fait au rendez-vous. Alors est-ce que vous avez relevé des choses sur ces différents points qui vous interrogent, Tanguy-Marie Pouliquen?
Moi, je dirais simplement... Je ne voudrais pas aller directement dans ce sens-là. L'inégalité sociale, elle n'est pas au niveau des retraites en France. On a un système de répartition des aides sociales. En gros, on a un package de 60 milliards par an qui sont redistribués. Si on prend les 20% des salaires les plus élevés et 20% des salaires les plus hauts, l'écart est de 1 à 8. Après répartition sociale des aides sociales, il est de 1 à 4. Donc on a déjà un système d'égalisation par la répartition qui est puissant en France, qui est vraiment puissant. Donc déjà, il régule les inégalités. Donc la question de la retraite, moi simplement, je soulèverais la prise de position et l'engagement du gouvernement d'assurer au moins une retraite à 1 000 euros. Voilà. Après, on verra comment elle sera indexée.
Ça fait pas beaucoup 1 000 euros, hein, quand même.
Pour certains, ça peut faire beaucoup.
Pour les agriculteurs, c'est doubler la mise.
Pour les agriculteurs,
significatif.
Nous, pour les religieux, on n'aura jamais une retraite à 1 000 euros et on sera très, très, très content si le gouvernement nous donne cette retraite avec la sécurité sociale payée.
Oui, on aurait pu dire
exactement l'inverse. Donc, 1 000 euros, si on est dans une logique de non-atomisation de la société, mais avec des solidarités qui ne sont pas simplement financières, mais qui sont d'abord des solidarités familiales, internes, associatives, et où on stimule une culture de l'attention à l'autre et du partage, et de la joie de partager. Donc la question, avant d'être économique, elle est culturelle. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Une personne, c'est avant tout quelqu'un qui trouve sa joie en se donnant et en assurant une certaine justice sociale, en prenant soin de celui qui a moins.
Daniel Cabanis, est-ce qu'il y a un point qui vous a fait tiquer dans cette réforme où vous dites là vraiment il faut taper du poing sur la table? Vous avez déjà souligné un point. On aurait pu parler aussi du chômage des seniors. Alors c'est pas vraiment c'est pas forcément lié, mais donc
alors c'était ce petit point là que je voulais évoquer. Je n'ai pas de doctrine ferme sur le fameux âge pivot, c'est extrêmement compliqué. Mais la seule chose à laquelle on doit penser, c'est que pour les gens d'un certain âge, les seniors, qui souhaitent travailler, c'est un plus longtemps, c'est un double bénéfice. Ils continuent à travailler et à cotiser, donc on ne leur paie pas de retraite, et ce sont souvent, parce qu'ils l'ont souhaité, des gens heureux, parce qu'ils ont, comme l'évoquait M. Soile tout à l'heure, eu la chance d'exercer un métier qui les a épanouis, qui est intéressant, dont ils peuvent conserver une partie de l'actualité. Donc il faut faire aussi attention de ne pas trop opposer les générations. Et de ce point de vue-là, la réforme avait des qualités, parce qu'elle était moins les jeunes contre les vieux.
Mais le taux d'emploi des seniors, c'est 60-64 ans, c'est 32,2% en France,
oui,
quand même.
Hein. Ça, là aussi,
Encore faut-il pouvoir travailler jusqu'au bout.
Oui, là aussi, c'est très français. Dans beaucoup d'autres pays, il y a très longtemps qu'on a réussi à garder les seniors, quitte à modéliser un peu différemment leurs activités, même éventuellement leur rémunération, parce que l'argument, c'est de dire ils sont vieux, ils coûtent trop cher. Mmh. Mais souvent, à cet âge-là, ils sont prêts à travailler un peu moins, ou pour un peu moins, moyennant qu'ils restent dans le système.
Je voudrais juste apporter donc une précision. La Cour des comptes donc a adressé récemment donc un référé au gouvernement, au Premier ministre, sur cette question du travail des seniors, en disant que c'était le travail complémentaire à aborder d'urgence. Et j'ai vu ce chiffre, le RSA pour les 60-64 ans a augmenté de plus 157% en 10 ans. Philippe Soile, dernier mot, avez-vous décelé un point qui vous semble être une injustice sur cette réforme ?
Non, pas, je ne vois pas tout de suite quelque chose à dire là-dessus. En revanche, oui, je voudrais insister sur le travail des seniors. Effectivement, c'est précieux parce qu'ils ont un savoir-faire, une maîtrise, une maturité. Ils sont là pour transmettre. Nous le voyons dans l'entreprise, dans les différents niveaux, techniciens, ouvriers, ingénieurs. Et il faut absolument ne pas se priver de ce trésor-là, qui est tout à fait capital. Il y a un autre point que je voudrais souligner, mais qui n'est pas lié à la réforme elle-même, c'est une forme de, pour employer un grand mot, de prolétarisation nouvelle. Je pense à tout ce qui est Uber Eats et les taxis, etc. Et que seront les retraites de ces gens-là ? Là, il y a, à mon avis, il y a une inquiétude véritable, et nous arrivons devant des aberrations ici où nous voyons des entreprises basées à l'étranger qui ne payent pas de cotisations, pour la bonne raison que les personnes qui travaillent pour ces entreprises ne sont pas des salariés de l'entreprise. Et nous voyons donc une forme de prolétarisation nouvelle, donc des gens, des étudiants notamment, prêts pour gagner quand même quelques sous à travailler dans ces conditions-là. Et donc là, ces gens-là ne cotisent pas, enfin, diversement ou différemment. Enfin, voilà. Donc là, pour moi, il y a un motif d'inquiétude.
Eh bien, c'est noté. On en reparlera de cette réforme des retraites. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour vos différents choix à la fin de cette émission. Et mon petit doigt me dit qu'on va quand même parler de Noël.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel donc le thème de l'émission de ce jour, en ce vendredi matin, autour du plateau, pour ceux qui par hasard nous rejoindraient, et pardon pour les autres, Daniel Cabénis, donc ancien professeur d'histoire du droit à l'Université Toulousain Capitole, Tanguy Marie Pouliquen, enseignant en éthique à l'Institut catholique de Toulouse, et par ailleurs prêtre, et Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. Alors je vous avais proposé donc de choisir chacun, sortir un sujet de votre chapeau, Daniel, vous vouliez réagir autour des questions de droit, ça ne nous étonnera pas du coup, mais voilà ce qui vous avait fait tiquer, c'est droit de la santé ou droit à la santé, et donc des interrogations qui pouvaient être posées à l'occasion donc des grèves dans les hôpitaux et dans les urgences. Dites-nous quelle est votre réflexion.
Ma réflexion est modeste parce que je ne suis pas une spécialiste des questions de santé. Simplement, ce qui me frappe, il y a une espèce de schizophrénie dans le public ordinaire que nous sommes tous à un moment ou un autre, les uns et les autres. Il y a une attente considérable à l'égard du système de santé. C'est cette revendication au nom d'un droit à la santé qui est pleine d'ambiguïté. Ce qui est garanti en principe, c'est d'être pris en charge. Ça n'est pas d'être guéri. Jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, c'est pas. Je ne vois pas qu'une quelconque société pouvant le garantir. Et l'ambiguïté, c'est qu'on attend toujours plus des médecins. Et dans le prolongement de ce que nous disions tout à l'heure, dès lors que bon nombre de solidarités se sont émoussées, pas de manière nécessairement délibérée, mais en raison de l'évolution de la vie de la société, bah, c'est vrai que ce qui pouvait se régler dans un contexte largement familial passe maintenant par le système de santé.
Alors par exemple, vous pouvez prendre un exemple?
Oui, l'exemple qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est celui des personnes âgées qui sont seules, qui ne sont pas nécessairement en très mauvais état, mais qui sont seules.
C'est pas forcément un problème de santé, ça. Vous parlez quoi, de la dépendance, c'est ça?
Quand il s'agit d'une question de santé. Et quand il s'agit d'une question de santé, elles n'ont aucun autre moyen que de passer par les structures lourdes, parce qu'elles sont toutes seules, et d'ailleurs on le leur dit clairement, s'il y a le moindre problème, vous appelez le SAMU ou les pompiers. Donc on en arrive à alourdir le système et les exigences qui pèsent sur lui, alors que les moyens dont il dispose dans le cadre du droit de la santé, qui est l'organisation de notre système sanitaire, ne nous suivent pas en termes d'augmentation ni de ressources financières, ni de ressources en personnel.
Donc on est capricieux à vous entendre, c'est ça? Ou on comprend mal ce qu'est le droit à la santé?
Capricieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a du mal à qualifier exactement ce que l'on veut. Et par conséquent, il est tout aussi difficile de savoir ce que l'on met en face de ce que l'on veut pour le satisfaire. Et là, il y a une très grande ambiguïté. Et je crois que le malaise des professionnels de santé, qui eux, de surcroît, peuvent faire grève de manière très limitée. La plupart du temps, ils travaillent quand même lorsqu'ils se déclarent en grève.
Le malaise, c'est qu'ils se sentent tenus à des obligations impossibles, c'est ça?
Voilà, ils se sentent toujours pris entre la volonté de faire le mieux possible à l'égard de chacun de leurs patients, et puis des exigences ou des manques de moyens qui font qu'ils ne peuvent pas satisfaire à leurs obligations.
Voilà, vous avez presque préparé une prochaine chronique, non? Là, c'est...
On verra, ça amuse Isabelle un lundi matin.
Voilà. Philippe Soile, vous vouliez à l'occasion, en prenant prétexte, et le prétexte n'est pas léger, hein, donc des révisions des lois de bioéthique qui vont passer donc devant le Sénat, les auditions ont commencé au Sénat, qui vont passer donc au Sénat en janvier. Vous vouliez mettre un coup de projecteur sur un sujet qui vous tient à cœur, et par la même occasion parler de votre livre à paraître ou récemment paru, L'homme incarné, aux éditions Lethiéleux-Arthège. Quel est l'objet de votre réflexion?
Merci Emmanuel. Alors oui, le livre est paru. L'objet de ma réflexion, c'est l'homme. Notre humanité est fragile et en danger, me semble-t-il. Nous ne savons plus ce que nous sommes. Donc, apparemment, vous direz que ce n'est pas de l'actualité, mais je crois que c'est de l'actualité. C'est de l'actualité invisible. Parce que vous semez une graine et vous la voyez pousser quelques mois après. Et vous dites, tiens, elle est là. Et là, des choses ont été semées ou sont en train d'être semées qui germeront et qui porteront je ne sais quel fruit dans 20 ans, dans 30 ans, mais c'est demain. Et donc là, pour moi, il y a un véritable danger. Alors, j'ai une expression que j'ai...
Alors, expliquez-nous peut-être ce qui vous inquiète. oui, entre autres, oui, à l'occasion de ces révisions de loi de bioéthique. Et derrière, quel est le cœur de la thèse de votre livre?
C'est qu'en fait, chaque fois, il est question de faire un pas, et un pas, encore un pas, et encore un pas, et mais personne ne montre la direction. Et on nous fait croire chaque fois que ce pas est le dernier, le définitif, et en fait, chaque fois, il y a un pas nouveau dans une direction que tout le monde ne souhaite pas nécessairement. Et il y a aussi difficulté, parce que si on ne vous montre pas la direction ultime, vous pouvez naïvement penser que vous êtes d'accord avec ce pas, sans voir, en fait, jusqu'où vous conduiront les pas suivants. Et donc, les pas suivants, ici, portent sur ce que j'ai appelé dans le livre l'homo ex machina. Il existe une formule de théâtre que vous connaissez, qui est le deus ex machina. Vous vous rappelez, quand vous allez au théâtre, vous voyez la situation est inextricable, c'est une impasse, et à ce moment-là, surgit, tombe du ciel un dieu qui résout tout et qui fait que l'histoire se termine bien. Voilà. Alors, en fait, j'ai pris cette expression à la lettre parce que pour former l'expression homo ex machina, l'homme qui vient de la machine. Et en fait, il me semble que insidieusement, tout est fait, ça passe aussi par le cinéma, ça passe par le cyborg qu'on voit au cinéma, par la télévision. Insidieusement, tout est fait pour nous accoutumer à transformer l'homme en une machine. Voilà. Et donc l'homme qui vient de la machine, l'homme qui tombe de la machine, cela se voit, je ne sais pas si vous le savez, mais certains sont en train de travailler, notamment en Chine, à la fabrication d'un utérus artificiel. Voilà.
Donc, voilà une extension possible, en tout cas, des prochaines révisions des lois de bioéthique. Mais si, c'est pas ce qui est voté du tout aujourd'hui. Mais
non, je sais bien. Je ne parle pas pour ça. Je ne parle pas de cette loi présente, mais d'un enjeu qui me paraît plus grave et plus profond et plus lointain. Mais les choses venant, où allons-nous? Voilà. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Je crois que ce sont les grandes questions posées par le philosophe Bergson. Et il faut nous les poser ici. Que devient l'humanité si l'enfant à venir est devenu une sorte d'OGM? Qu'on met dans un utérus artificiel et qu'on peut bricoler, qu'on peut métamorphoser à souhait. Alors, tout est fait pour nous faire miroiter le bon côté. Vous avez un organe déficient, on vous prend des cellules souches et je simplifie, mais on vous refait cet organe.
On en est quand même à voter la possible création d'embryons chimères en France. Ça fait partie des révisions de la bioéthique.
Donc là, tout à fait, c'est pas lointain, c'est déjà... certaines recherches sont faites et certaines recherches sont en voie
d'autorisation. C'est pas des machines, là, c'est mélange animal-homme. Voilà.
Oui, tout à fait. Donc là, pour moi, il y a quelque chose d'inquiétant. Il faut un véritable débat, un débat philosophique, raisonnable, sans haine, sans manipuler l'argument de la haine, qui est souvent simplement un épouvantail.
Vous semble-t-il possible, on imagine que votre livre va être lu, en tout cas on vous le souhaite, mais certaines personnes ici en plateau, et puis évidemment on a pu lire ça dans d'autres médias, et des médias plus grands que nous, qu'il y a une forme d'impossibilité à dialoguer en fait sur ces sujets parce que aujourd'hui justement on aurait plus la même vision de l'homme, homme, animal, machine, les différences seraient, enfin les visions comme on dit anthropologiques seraient tellement différentes que les chrétiens n'auraient pas vraiment voix au chapitre ou c'est en tout cas ce que disent les évêques. Est-ce que vous êtes un peu découragé?
Découragé, certainement pas. Non. Nous pouvons toujours parler. Il faut aussi parler pour être entendu et parler pour être entendu de manière raisonnable. Gilbert Autois, qui est un des meilleurs spécialistes du transhumanisme, ne cache pas dans son excellent petit livre « Qu'est-ce que le transhumanisme ?» que celui-ci est lié à de puissants intérêts financiers américains. Et il ne fait aucun mystère. Donc ça veut dire que sous la couverture acceptable de progrès, en fait, il y a des intérêts financiers extrêmes qui sont en jeu, et ce n'est pas du tout neutre. On ne peut pas embarquer l'humanité et l'avenir de l'humanité dans une aventure qui pourrait conduire à sa destruction et qui conduirait à coup sûr à l'enrichissement superbe de quelques-uns. Enfin, parce que là, pour revenir à ce dont nous parlions tout à l'heure aussi, qui aura les moyens dans la société future de se faire changer le cœur quand le cœur sera déficient ou que sais-je. Enfin, voilà, donc là, il y a un éclatement de l'humanité et plus profondément une perte de l'idée d'humanité. Et là, cela va au contresens, justement, de la bonne nouvelle.
Alors là, c'est là où on se dit de temps en temps, quand même, les prêtres, ils servent à quelque chose. Tanguy Marie Pouliquen.
Alors, on va d'abord répondre à l'interlocution. Les prêtres servent toujours à quelque chose. Ils sont au service de tout le monde. Ils sont disponibles.
J'espère que je n'ai blessé aucun auditeur en disant ça.
On est très
vous vouliez parler du mystère de Noël, de ce que les chrétiens vont contempler.
C'est intéressant que j'arrive en dernier, là, sur cette troisième mi-temps. Entre l'homme tout-puissant, on a un Dieu qui se fait pauvre, qui se fait présence. Entre un homme-Dieu, il y a Dieu qui se fait homme. Entre un progrès qui va, on ne sait pas où, il y a une présence qui se propose à nous. Noël, c'est la fête de la présence. C'est Dieu qui se rend présent et qui nous rappelle qu'au cœur même de toutes nos interactions sociales. Ce qui est premier, c'est pas les revendications financières, c'est la qualité de présence les uns aux autres. Et en naissant dans une petite mangeoire, le Dieu Tout-Puissant s'est fait présence gratuite. Il se donne au présent comme une présence qui est le véritable présent. Et ce présent nous assure que, quel que soit le ressentiment que nous pouvons vivre à travers des inégalités sociales parfois fortes, il y a la justice de Dieu, qui est à dire sa présence, et une présence qui nous enveloppe et qui nous rappelle que nous sommes aimables, que nous sommes aimés, que nous sommes attendus et que nous sommes espérés, et que l'avenir est ouvert, toujours ouvert. À Noël, c'est une bonne année qui commence pour tous.
Juste en Guémarie Poulquin, si on essaie juste de reboucler avec les deux sujets d'actualité dont on a parlé avant, alors vous avez un petit peu parlé en creux du coup de la réforme des retraites. Mais
on n'est pas retraité de la présence de Dieu. Hein. La présence de Dieu, qu'on soit avant la retraite ou après la retraite, c'est quelque chose qui va nous être considérable et nous rejoindre pour la vie éternelle. Donc on est plein d'espérance pour le moment présent, parce qu'il nous ouvre à une espérance à venir définitive.
Donc la retraite, ce n'est pas le début de la fin ? Ah même non. Si c'est la fin du travail.
Non, c'est le début du véritable travail, parce que le véritable travail, c'est quoi ? C'est le travail de Dieu en nous. C'est ça, c'est Dieu. Avant que nous travaillions dans des œuvres sociales, laissons Dieu vraiment travailler dans nos cœurs. Et cette dimension spirituelle qui rejoint à une certaine anthropologie, corps, âme, esprit, relation, nous invite à nous laisser rejoindre au meilleur de nous-mêmes pour être le plus proche les uns des autres dans une justice sociale la plus effective possible, nous le souhaitons.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Je n'irai pas jusqu'à pousser le bouchon, de demander de nous expliquer ce que le mystère de l'incarnation peut changer quant au regard de la procédure d'impeachment de Donald Trump. Chacun pourra faire ce chemin et peut-être lire en tout cas les journaux, lire l'actualité avec au cœur donc le mystère de l'incarnation. Merci beaucoup d'être venu ce vendredi matin pour cette émission d'actualité. Merci de votre fidélité et bienvenue à Philippe Soile. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.